Et donc, nous continuons ce matin ce livre des Actes. Donc, la semaine dernière, nous avons vu comment Dieu a protégé Paul, d'abord du fait de sa naissance charnelle, mais aussi spirituelle, sa nouvelle naissance. Dieu l'a protégé aussi du fait de son innocence, parce qu'il essayait de garder toujours une bonne conscience. Et puis, ainsi, Paul, eh bien, a été protégé par la providence de Dieu. Les Juifs avaient l'intention de le tuer, mais l'apôtre a été escorté jusqu'au gouverneur Félix. Et on va reprendre notre récit où nous l'avons laissé. Et là, on va assister au déroulement, finalement, un peu d'un jugement devant les Romains. Et il y a une plainte qui est déposée contre l'apôtre. Et puis, il y a une accusation qui va donner son réquisitoire. J'espère que je vais employer les bons termes. Et pas me tromper, sachant qu'il y a quelqu'un qui connaît les termes dans la salle. Et donc, ils vont souligner l'infamie du prévenu. Et puis ensuite, parole sera donnée à la défense, l'apôtre Paul lui-même. Et puis, le tout sera en présence donc, d'un juge, et en l'occurrence, c'est le gouverneur Félix. On va lire ensemble Acte 23, à partir du verset 31. Jusqu'au chapitre 24 complet. Acte 23, verset 31. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le garde dans le prétoire d'Hérode. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec les anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. Et qui même a tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias, étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Alors, on va regarder ensemble les 3 intervenants de l'histoire. Les accusateurs, la défense et le juge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de ces 3 intervenants, on retrouve en quelque sorte 3 attitudes vis-à-vis du vrai christianisme, du christianisme authentique, de l'Évangile, de la parole de Dieu. D'abord, il y a les accusateurs. Alors, qui sont-ils et que représentent-ils? Les accusateurs, ils représentent les ennemis de la vraie foi, les ennemis de l'Évangile, ceux qui sont farouchement opposés à la foi en Jésus-Christ. Et c'était le cas ici. Ces Juifs de Jérusalem avaient pris parti de s'opposer à la foi en Jésus-Christ. Ils n'acceptaient pas Jésus comme le Messie d'Israël et ne supportaient pas l'idée que l'un des leurs, un Juif, puisse être son émissaire, son ambassadeur, son porte-parole. Alors, eh bien, ils vont le charger devant Félix, qui fait office de juge dans l'affaire. Mais avant de voir leurs accusations, d'abord, on peut relever l'esprit qui se dégage derrière leur attaque. Les accusateurs vont faire appel à un orateur, donc, qui s'appelle Tertulle. On pourrait dire que c'est un petit peu comme leur avocat qui pousse en avant. C'est vrai que parfois, on ne sait pas forcément présenter les choses, les dire de la bonne manière, argumenter avec pertinence. Alors, il pousse cet orateur Tertulle. Mais Tertulle, ici, fait plus preuve d'obséquiosité, d'hypocrisie. Vraiment, il est mielleux, là, désagréable. Il est comme rampant devant Félix. Il choisit ses mots, il est plein de louanges et de caresses. On peut relire ensemble ce verset 3 et 4. C'est incroyable. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout, avec une entière gratitude. » Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. C'est assez incroyable quand même, de telles paroles là. Comment ça ne jette pas d'emblée la suspicion et dire « Oh là, qu'est-ce que veut cette personne ?» Je ne crois pas qu'un juge, si un avocat commençait à défendre la cause de cette manière... Ne le repousse pas. Peut-être ça arrive, je ne sais pas. Peut-être que ça arrive. Alors, quelles sont leurs accusations? D'abord, ils déclarent Paul comme étant une peste. C'est une peste. Et le terme grec décrit un fléau contagieux. Comme une maladie néfaste, mauvaise, les convictions de Paul commençaient à se répandre comme une traînée de poudre. Alors ça, c'est une manière de le décrire, une peste, une maladie contagieuse. Parce que c'est certain, l'évangile de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est contagieux. Mais peut-être pas dans le sens où les religieux voulaient le laisser entendre. Et aujourd'hui, on peut dire que les ennemis de l'évangile continuent à penser que l'évangile est dangereux. Et ils pensent que des chrétiens qui sont trop convaincus, des chrétiens qui parlent trop, ben finalement, c'est comme une peste. Il faut les faire taire. Taisez-vous, on ne veut pas vous entendre. Comment on la définit aujourd'hui? On la définit avec un mot, c'est prosélytisme. Prosélytisme. Et c'est curieux comme le prosélytisme, c'est toujours vu comme quelque chose de négatif quand il s'agit de l'autre qui fait du prosélytisme. Mais quand il s'agit de ses convictions que l'on répand, alors là, non, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de prosélytisme. Les Juifs, par exemple, ils accusaient Paul de faire du prosélytisme. Mais entre eux, Jésus les a condamnés, a dit, mais vous allez partout le monde et vous faites de quelqu'un un prosélyte et finalement vous le poussez à la perdition. Donc eux aussi faisaient du prosélytisme. Aujourd'hui, on sait qu'il est interdit de faire du prosélytisme dans certains lieux. Mais on peut se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de prosélytisme de la laïcité? Ben, assurément, hein, assurément. Ou bien, on va s'attaquer farouchement à toute forme de prosélytisme, mais on va laisser les publicitaires, les médias, les politiques faire leur prosélytisme librement. Et eux, on ne les embête pas. Hein. On va leur allouer des grands espaces au bord des routes. On va leur permettre d'entrer dans notre salon par la télévision. On va même se faire bombarder sur nos téléphones. Ou bien, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un prosélytisme scientifique pour des théories qui ne reposent pas finalement sur des faits et donc qui ne sont pas scientifiques? Ce n'est pas scientifique. Hein. Puisque quelque chose qui est scientifique, c'est quelque chose qui est démontrable, que l'on peut reproduire et que l'on voit sous nos yeux. Eh bien, il y a un prosélytisme scientifique erroné. Alors oui, chacun trouve le prosélytisme de l'autre qui est dérangeant. Mais le sien, c'est normal. Et puis ensuite, Tertulle dit que Paul excite des divisions parmi les Juifs du monde entier. Et c'est certain, quand Jésus-Christ est venu, ça a provoqué une polémique. La Bible dit, la lumière, Jésus-Christ, est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Donc tout de suite, oh, il y a eu un problème. Et c'est clair que les Juifs, dans la majorité, n'ont pas bien accueilli Jésus. En partie parce que les religieux étaient hostiles et ils poussaient dans ce sens, mais aussi parce que, eh bien, ils attendaient peut-être autre chose de Jésus-Christ, hein, espérant être délivrés du joug romain. Et finalement, Jésus crucifié, les Juifs ne l'ont pas vu, alors que c'était écrit dans l'Ancien Testament, ils ne l'ont pas vu et ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas cru. On pourrait dire, ou pas voulu. Alors, il y a eu des divisions. Mais finalement, est-ce que quand on débat, quand on parle de sujet, ça ne provoque pas toujours une division? À chaque fois qu'on aborde un sujet, on n'est pas tous d'accord. On est rarement tous d'accord. En fait, presque tous les sujets peuvent engendrer des désaccords. Si on prend des sujets de société, tout le monde n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'il y a différents mouvements politiques. Hein. C'est parce qu'on n'est pas d'accord. Certains vont trouver pour un sujet, c'est juste, c'est injuste, c'est moral, c'est immoral. Et quand Jésus-Christ s'est présenté comme le chemin, la vérité et la vie, à ce moment-là, eh bien, ils ne l'ont pas tous accueilli comme étant le chemin ou le seul chemin, la vérité et la vie. Alors oui, ça provoque des divisions. La vérité provoque des heurts, elle provoque des divisions. Et je pensais à l'actualité où il y a un certain Edward Snowden, vous avez entendu parler de ça. Donc, quelqu'un qui était aux États-Unis, qui travaillait aux États-Unis, qui a que 30 ans, mais qui est inculpé d'espionnage par le gouvernement américain, alors que son crime, c'est de révéler la vérité sur le fait que les États nous espionnent. Les USA, l'Angleterre, la Chine et plein d'autres États, ils nous espionnent librement. Une fois, je me souviens, on avait parlé dans une voiture, on se posait la question, mais au niveau des tables d'écoute, qui est écouté vraiment? Oh, mais c'est vraiment, il faut vraiment être un grand criminel pour être sur table d'écoute. Mais alors là, mais pas du tout. C'est-à-dire, il y a tout un système qui écoute, je ne sais plus, 600 millions de conversations, je crois, sans cesse. On enregistre ça, on le garde pendant 30 jours, on l'analyse, tous les réseaux sociaux, tout. En fait, on est espionné, on ne nous a jamais demandé notre consentement. Ils savent tout sur tout. Et la vérité, ça dérange. Et ce Edward Snowden, là, il est caché à Hong Kong, mais il est en mauvaise posture. Hein. Parce que la vérité, ben, ça fait sortir les choses des ténèbres. Et l'homme a en horreur qu'on mette la lumière sur ses crimes. Et c'est ce qui se passait ici avec cette inculpation. Pourquoi ces Juifs rejetaient la vérité du Fils de Dieu? La Bible dit « Les hommes préféraient les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » C'est pour ça qu'ils pointaient le doigt sur l'apôtre Paul, parce que Paul révélait par la vérité tout ce qui était dans leur cœur. Alors, eh bien, ils ne voulaient pas de cette lumière et ils rejetaient l'apôtre Paul. Ensuite, une autre accusation, on le dénonce comme étant le chef de la secte des Nazaréens. Et là, ça fait réfléchir sur l'usage du mot « secte ». Finalement, le christianisme primitif, originel, vrai, était regardé comme une secte. C'était une secte pour les Juifs de l'époque. Alors, qu'est-ce que c'est une secte ? Si on regarde un peu, on peut trouver différentes définitions du mot « secte ». Par exemple, en France, on a l'expression « c'est pas catholique ». C'est pas catholique ça. Et finalement, là, ça donne la définition du mot « secte » pour le citoyen lambda qui est français. Tout ce qui n'est pas catholique, c'est une secte. Ils réfléchissent, pensent comme ça. Si vous demandez à une association de lutte contre les sectes, eux auront une autre définition d'une secte. Si vous demandez à un petit groupe religieux quelque part, peut-être qu'eux aussi auront une autre définition d'une secte. Mais une secte, si on reste basique sur le mot, c'est quoi ? C'est un groupe de personnes qui est différent, qui ne pensent pas comme vous. Voilà, ils sont à l'écart, ils ne pensent pas forcément comme tout le monde. Et le terme, il est méprisant. Les Juifs ont dit « Paul est le chef de cette secte des Nazaréens ». Mais c'est intéressant de voir que même entre Juifs, ben, ils disaient « Ah ben, il y a la secte des pharisiens ». Ou la secte des Sadducéens. Donc, voilà, des mouvements, hein, et on s'accusait de secte les uns les autres. Hein, et ça relativise l'usage du mot secte. Alors, je nie pas qu'il y ait des mouvements mauvais, hein, qui vont être manipulateurs, hein, qui vont être destructeurs de la famille, qui vont être cupides, hein, pour essayer de prendre, parfois même perverses. Mais quand on réfléchit, choisir Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, pour faire quoi ? Pour vivre une vie respectueuse, respectueuse de Dieu et respectueuse de mon prochain et respectueuse de moi-même. En quoi c'est mauvais ? En quoi c'est néfaste ? En quoi on pourrait dire c'est quelque chose qui est sectaire dans son mauvais sens ? Non. Et c'est curieux de voir que les choses n'ont pas beaucoup changé. Aujourd'hui, dès que vous prononcez le mot de Jésus, le Nazaréen, comme on l'appelait, eh bien, ça provoque tout de suite une réaction. Là. Ce mot-là, ce nom-là ne sont pas aimés. Et puis pour finir, Tertulle va calomnier Paul en disant qu'il a tenté de profaner le temple de Jérusalem. Et quand il dit ça, il faisait référence au fait qu'ils avaient accusé Paul d'avoir emmené un grec, donc un païen, dans le temple, chose que Paul n'avait pas du tout fait. Donc c'était infondé. Et là, on voit un dernier point, c'est que quand on n'aime pas une personne ou un groupe de personnes, la tentation, elle est grande de commencer à calomnier et à salir ces personnes. Un exemple qui est frappant dans l'histoire, c'est les Cathares. Si vous regardez et vous lisez un petit peu l'histoire des Cathares, parce qu'ils n'étaient pas catholiques, alors eh bien, on les regardait comme des hérétiques et on les salissait. On leur disait qu'ils faisaient des abominations, enfin, des choses mauvaises, sanglantes. Et malheureusement, On a pu vraiment décrire des cathares parce que, eh bien, en les brûlant sur les bûchers, on brûlait aussi les écrits des cathares. Et puis, ceux qui restaient réécrivaient l'histoire au travers de tout ce qu'ils pouvaient dire de leur méchanceté. Alors que quand on cherche et on gratte, on trouve des origines au Qatar vers les Polyciens ou vers les Bogomiles ou vers d'autres petits groupes qui finalement étaient quoi ? C'était des chrétiens. C'était que des chrétiens. Alors on les a salis, mais c'était quoi ? C'était des chrétiens qui étaient dans la continuité de la secte des Nazaréens. Hein ? Mais ça, eh bien, non, on les calomnie, on les rejette, parce qu'on est en vérité ennemis de l'Évangile. Donc voilà pour la plaidoirie de l'accusation. L'homme, Paul, est coupable, il mérite d'être condamné. La Bible dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Alors maintenant, on va écouter Paul, on va donner la parole à la défense. Il prend sa défense lui-même, il n'a pas d'orateur, il va simplement compter sur Jésus-Christ. Quand on regarde son introduction à lui, elle n'est pas comme Tertulle, mielleuse, etc. Hein. Non, elle est brève, elle est sans fioriture. D'abord, il conteste les dires de Tertulle. S'il est monté à Jérusalem, c'était pour adorer. Et il n'a pas provoqué un rassemblement séditieux de la foule, pas du tout. Et puis, il va dire trois choses pour se défendre et prouver que ce n'est pas vrai ce qu'on affirme de lui. Première chose, la réalité de son crime. Quel est son crime ? Verset 14. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi » et dans les prophètes. Et on peut dire, voilà son crime. Faire partie de ce qu'ils appellent une secte. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas qu'il fait partie de la secte des Nazaréens, mais il dit qu'il fait partie de ce qu'ils appellent une secte. Donc on voit bien que c'était un terme qui était méprisant, même à l'époque. Mais que croyait Il croyait tout ce qui était écrit. Que croyait l'apôtre Paul ? Est-ce qu'il avait des croyances qui étaient tordues, qui étaient méchantes, qui étaient immorales ? Non, simplement ce qui était écrit dans la loi et dans les prophètes, donc tout l'Ancien Testament. Il croyait dans la Bible et donc il croyait dans toute la loi morale de Dieu. Il croyait « tu ne tueras point ». Tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tu honoreras ton père, ta mère, tu ne mentiras point. Et puis, il croyait aussi dans toutes les lois qui concernaient la personne de Dieu. Tu n'auras qu'un seul Dieu, celui qui a fait les cieux, la terre et toutes choses. Tu ne te feras point d'images taillées, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et plus bas sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Non, tu n'adoreras que ton Dieu et seulement ton Dieu qui t'a créé. Et la loi de Dieu, elle était comme un précepteur, comme un professeur pour nous amener plus loin, pour amener l'humanité plus loin. Quelque chose qui était supérieur. Et qu'est-ce qui était supérieur ? Finalement, c'était la loi de Christ. La loi du pardon, la loi de l'amour. Et Paul, bien sûr, eh bien, croyait tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, mais il croyait aussi à toutes les paroles de Jésus-Christ. Alors, quelles sont-elles ? Jésus-Christ qui relève le niveau. Jésus a dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. » Celui qui dira à son frère « Raca », une insulte, mérite d'être puni par le tribunal juif, le Sanhédrin. Et celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Des paroles terribles. On élève le niveau ici, au niveau des pensées, au niveau des paroles. Jésus dit encore « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis maintenant, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc voilà son crime. Son crime, c'était de croire à cela, de vouloir respecter son prochain, de vouloir l'aimer, de ne pas vouloir faire quelque chose qui lui porte préjudice. En quoi est-ce un crime? Est-ce un crime de croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a versé son sang pour nos péchés et pour nous donner la force de vivre ses paroles par la foi et vivre une vie qui est plus juste, plus belle, plus pure? Donc Paul se défend, première chose, avec ceci. Voilà en quoi je crois. Ensuite, il développe son espérance. Verset 15. Il dit, « Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Donc, deuxième chose, peut-être on pouvait lui reprocher pour certains, Paul avait une espérance éternelle. Certains croient que après la mort, eh bien, on redevient poussière, plus aucune existence, mais aussi plus aucune espérance. C'est plutôt la désespérance. Dieu, lui, dans la Bible, il explique que le corps tombe en poussière, mais l'âme et l'esprit, eh bien, elles demeurent éternellement. Et qu'ainsi, comme Jésus nous l'a montré par sa propre résurrection, tous les êtres humains reprendront un corps. Ils se relèveront de la poussière, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle, la condamnation. Et quand on a cette espérance d'être réveillé pour la vie éternelle, mais c'est une vraie espérance, c'est une espérance de justice, c'est une espérance de retrouvailles, hein, pour ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'est une espérance de larmes séchées, de cœurs consolés. C'est une espérance d'une vie sans souffrance qui n'aura plus de fin. Et il n'y a rien de condamnable à croire dans cela. Avoir cette espérance, au contraire, c'est quelque chose qui communique du bien. Et même les Juifs avaient cette espérance. Troisième chose, pour terminer avec l'apôtre Paul, c'est qu'il va exposer sa manière de vivre. On l'accuse, on lui dit que c'est quelqu'un de mauvais, ben, il va dire, versets 16 et 17, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. » Donc voilà l'homme qu'on accuse. Quelqu'un qui veut avoir une bonne conscience, donc on a développé ce sujet la semaine dernière, mais aussi quelqu'un qui est venu faire des aumônes à sa nation. On se souvient qu'il était venu avec des dons pour donner aux pauvres de Jérusalem. Donc il est venu faire des aumônes, faire du bien à sa nation, aux Juifs. Et puis il est venu adorer son Dieu, faire des offrandes à son Dieu. Et donc on voit que Paul est quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui aime son prochain. Finalement, c'est ce que tout juif pieux devait faire. Aimer Dieu premièrement, de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, et puis aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, quand on regarde ces juifs, on ne peut pas dire qu'ils l'accusaient, que c'était ce qu'ils étaient en train de faire vis-à-vis de Paul. Eux, ils n'étaient pas en train d'aimer Dieu comme il le fallait, ils n'étaient pas en train d'aimer leur prochain, parce que Paul les dérangeait. Donc voilà la défense de l'apôtre. Ce qu'il vit, ce qu'il croit, c'est quelqu'un qui est convaincu, un vrai croyant en Jésus-Christ. Et puis il termine en expliquant ce qui s'est réellement passé lors de son arrestation. Maintenant, on va voir un petit peu comment va réagir le juge. Qui est le juge, finalement? Quand on regarde le juge, finalement, lui, il est l'image de quelqu'un qui est un spectateur de la foi chrétienne. Il regarde un petit peu à l'écart. Ce n'est pas un ennemi, mais il n'est pas engagé. Il est seulement un spectateur qui va regarder de loin. Verset 22. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Donc, premier point sur ce juge, il est parfaitement au courant de ce qui concerne cette doctrine, donc la doctrine de la résurrection. Donc, Félix n'est pas un ignorant. Et pour cause, sa femme était juive. Donc, il avait bien entendu parler de tout cela avec sa femme. Il connaissait bien l'espérance et la foi des Juifs. Et puis, il avait aussi probablement entendu parler de Jésus-Christ, qui avait été crucifié quelques années plus tôt et dont on disait qu'il avait été, qu'il était ressuscité d'entre les morts. Donc, Félix est au courant, mais il n'est pas croyant. Combien de personnes disent « Elles ont la Bible, elles ont été baptisées, elles ont fait le catéchisme, elles sont au courant, mais elles ne sont pas réellement croyantes ou croyantes. » Verset 23. « Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre des services. » Deuxième point, Félix est capable de bonté. Ici, il ne va pas accabler l'apôtre Paul, outre mesure, non. Au contraire, il est prisonnier, mais il lui laisse une marge de manœuvre, une certaine liberté. Et quand on voit ça, ce qui ressort là, le premier contact, on se dit, ben, finalement, Félix, ça a l'air d'être quelqu'un qui est gentil, quoi, quelqu'un de bien. Versets 24 et 25. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Troisième point, c'est que Félix prend peur devant la vérité. Et il y a une différence entre avoir un peu entendu parler, connaître un peu la Bible par oui-dire, ou en avoir comme un vague souvenir du passé, et puis être placé devant la vérité des Écritures. Parce que quand on est placé devant la vérité de Dieu, on ne peut plus être neutre, parce qu'on sait. Et quand on sait quelque chose, eh bien, on est responsable de ce que l'on sait. Paul a parlé de la justice de Dieu. Et on sait tous, intérieurement, même sans avoir lu la Bible, que s'il y a un Dieu, alors il est parfaitement juste. S'il y a un Dieu, alors on sait aussi qu'il sait tout. Il sait tout de notre vie. Il est omniscient. Et s'il y a un Dieu, on sait aussi qu'il peut mettre tout en lumière et révéler tout ce qu'il y a dans notre cœur. Paul lui a parlé de la justice. Paul lui a parlé de la tempérance. Et on ne peut pas faire comme on veut. Dieu est saint, il est pur, il est parfait. Ça veut dire qu'il aime la droiture, il aime la sobriété, il aime la maîtrise de soi, il aime la pureté, il aime l'intégrité. Et puis troisièmement, Paul lui a parlé du jugement à venir. Et dans toute la Bible, les anciens, les prophètes de l'Ancien Testament, puis Jésus-Christ lui-même, et ensuite les apôtres avec les écrits du Nouveau Testament, tous nous parlent du jugement à venir. Il y aura un jugement. La Bible dit que Jésus-Christ a été établi juge des vivants et des morts. Donc il va juger la terre d'une manière collective, mais aussi et surtout d'une manière individuelle. Il va souligner l'injustice de chaque homme. Et là, Félix, quand il entend tout ça, il ne se sent pas très bien. Il est effrayé de ce qu'il entend. Et là, il n'a plus envie d'entendre. Il ne veut pas qu'on aille un peu plus loin. Il ferme ses oreilles, il renvoie Paul. Oui, d'accord. On se verra une autre fois. Et le verset suivant nous aide à comprendre. Regardez verset 26. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Quatrième point, c'est que cette personne qui semblait gentille, eh ben, elle est corrompue. Elle est corrompue. C'est un mauvais juge, un juge qui est corrompu. Et on peut avoir parfois l'impression d'une bonne personne, vraiment bien, dans les clous. Et puis finalement, avec le temps, eh ben, ça révèle que tout n'est pas parfait. La Bible dit, les péchés de certains hommes sont manifestes. On les voit tout de suite, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Et Félix n'était pas quelqu'un de droit. Il était capable de bonté. Oui, hein, il y a toujours une part en nous de gentillesse, de bonté. Mais son cœur était aussi pécheur. Il était aussi mauvais comme le reste des hommes. Je suis allé chez le médecin vendredi. Et c'était pas mon médecin, enfin, la personne que j'avais l'habitude de voir, c'était la femme d'un médecin qui faisait partie du cabinet. Et puis on commence à parler, et puis bon, finalement on a parlé un bon moment. Et donc je découvre qu'elle ne croit pas, ou elle ne croit plus, elle ne veut plus croire en Dieu, mais elle est convaincue d'une chose, c'est que le cœur de l'homme est mauvais. Après avoir passé plusieurs décennies à voir les mêmes personnes hein, dans son cabinet, défiler, les voir vieillir, hein, eh bien, elle a vu des revirements hein, et voir comment eh bien, on pouvait dire du mal des uns, des autres, et quelqu'un qui était très gentil, mais finalement, il se révélait pas du tout hein, gentil, et convaincu, le cœur de l'homme est mauvais. C'est incroyable, hein, ne pas croire en Dieu, ne pas croire en l'homme. Mais alors, où est l'espérance ? Où est l'espérance ? Et le spectateur, même si ce n'est pas un ennemi, c'est un pécheur comme les autres. Il est spectateur et il est pécheur comme tous les hommes parce que tous ont péché. Nous avons tous péché. Et il faut un peu de temps et hop, nos péchés se révèlent. Verset 27. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Et cinquièmement, on voit que Félix va rester longtemps à entendre la parole de Dieu, mais finalement, il ne va pas se repentir. En fait, il va rester un spectateur jusqu'au bout. Pourtant, il a revu l'apôtre Paul ponctuellement. C'était l'apôtre Paul. C'est quelque chose, hein? C'était l'évangéliste choisi par Dieu pour évangéliser les païens. On ne peut pas imaginer que Paul ne lui prêchait pas l'évangile avec autorité et la puissance de Dieu. Donc, ce n'était pas faute d'entendre. Mais en fait, son cœur a recherché la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Alors, pour résumer, l'ennemi de l'Évangile, l'ennemi de Jésus-Christ, celui qui n'aime pas vraiment Jésus-Christ, d'abord, il est dérangé par le prosélytisme évangélique. Croyez ce que vous voulez, mais surtout n'en parlez pas. Hein. Ne m'en parlez pas et n'en parlez pas aux autres. Interdit. Il ne supporte pas la vérité de l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'elle met en lumière... Hein, fait le jour sur son cœur, sur ses péchés, sur sa vie. Alors il va accuser. C'est une secte. Ah non, non, non. N'écoutez pas, c'est une secte, c'est un mouvement sectaire. Pourtant, pas chercher à comprendre, hein, voir si c'est vrai, bon, juste. Non. Et puis enfin, parce qu'il est ennemi de Dieu, finalement, il calomnie. Il dit des mensonges, il salit. Faire du mal. Le croyant, le vrai croyant en Jésus-Christ, si on le regarde, on l'examine, celui qui est engagé dans sa foi dans l'Évangile, qu'est-ce qu'il est ? Il croit tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il serre la parole de Dieu dans son cœur. On vient de le faire avec les proverbes. Hein. En lisant les proverbes, on voit combien les proverbes nous gardent, nous protègent. C'est un garde-fou qui nous sécurise et qui nous évite de choisir le chemin de la méchanceté et d'en recevoir après les conséquences. Donc il sert la parole de Dieu dans son cœur. Ce n'est pas simplement qu'il a une Bible dans sa bibliothèque. Hein. Non, c'est qu'il l'ouvre quotidiennement, il l'aime. Elle fait partie de sa vie. Ensuite, le croyant, le vrai croyant en Jésus-Christ, il a une espérance éternelle. Il a la certitude que quand il va mourir, il va retrouver son Sauveur. Il vivra avec lui pour l'éternité, parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a cru dans son cœur, hein, et qu'il sait qu'il est pardonné, il est purifié, il est lavé, il est net de son péché, et il est promis à l'éternité. Et puis pour finir, le croyant, il va manifester une vie qui est en accord avec l'enseignement de Jésus-Christ. Il va aimer Dieu et il va aimer son prochain et faire du bien à son prochain. Le spectateur de l'Évangile, celui qui est à l'écart et qui regarde un petit peu de loin, il va faire plusieurs choses. D'abord, il n'est pas contre le fait d'écouter un petit peu. Il n'est pas complètement ignorant. Il sait. Il est capable de bonté. Il est capable de gentillesse. Mais si on lui parle de justice, de vérité, de tempérance, du jugement de Dieu, de ce que disent les Écritures, alors là, il commence à reculer un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il est pécheur. Parce que dans son cœur, il est capable aussi des pires choses. C'est juste là, il suffit des circonstances et puis ça se révèle. Et pour finir, le spectateur, il peut ne jamais se repentir. Et je dis « il peut », je ne dis pas « il ne se repentira jamais ». Parce qu'il y a de l'espérance quand même, hein, quand on entend. Même l'ennemi, il y a de l'espérance. Même l'ennemi peut se repentir. Tout le monde peut se repentir. Mais il faut à un moment faire un choix. Il y a une décision à prendre. C'est quelque chose d'important. Parce que le danger, c'est de laisser passer le temps, les mois, les années, comme Félix. Et finalement, on met en oubli et on cherche à plaire plutôt aux hommes, alors qu'on devrait chercher à plaire à Dieu. Alors, on n'est pas tous identiques. Hein? On ne peut pas mettre les gens dans des cases. Les uns seraient comme ceci, les autres sont toujours comme cela. Ce n'est pas vrai. Mais au travers de cette histoire, on voit quand même ce qui ressort souvent d'un ennemi de l'Évangile, d'un vrai croyant en Jésus-Christ et de quelqu'un qui sait des choses mais qui ne prend pas une décision. Et j'aimerais pour terminer, pour conclure, dire qu'il n'y a pas de milieu avec Dieu. Il n'y a pas de milieu. Au ciel, il n'y aura pas de croyants non pratiquants. Il n'y aura aucun croyant non pratiquant au ciel. Hein? Forcément, il n'y a que des pratiquants. Pourquoi ? Parce qu'on ne se retrouve pas là-haut par hasard en se disant « Oh, bah tiens, oh, bah, je suis au ciel, merveilleux !» On n'y est pas par hasard. Hein? On y est parce que entre le péché et la sainteté, on a choisi la sainteté. On y est parce que entre l'indépendance de Dieu et la dépendance de Dieu, on a choisi de lui obéir. On y est parce que entre les ténèbres et la lumière, on a voulu la lumière. On a voulu être dans la lumière. On y est parce que entre le mal, le mauvais, le faux, on a choisi le bien, le bon, le vrai. On y est parce que entre sa sagesse propre et la sagesse de Dieu, on a choisi la sagesse de Dieu. On y est pour finir parce que entre l'incrédulité et la foi en Jésus-Christ qui a payé pour nos péchés, on a choisi de croire en lui. On a choisi de dire « Oui, je crois en toi, pardonne mon péché, sauve-moi ». C'est ça qui fait qu'on est au ciel. On entrera dans le ciel. Et j'ai choisi ce dernier verset que j'aimerais qu'on relise ensemble. C'est Jésus qui dit « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. »